Chapitre 7. J'avais pressenti que toute l'autorité de ce triumvirat exécutif tomberait dans les mains de celui qui était déjà investi du pouvoir militaire. Il n'y eut plus aucun doute après la première séance que tinrent dans la nuit même les trois consuls. Là, Bonaparte se saisit en maître du fauteuil de président que Roger Ducos et Sieyès n'osèrent lui disputer. Roger, déjà gagné, déclara que Bonaparte seul pouvait sauver la chose publique et qu'il serait désormais de son avis en toute chose. Sieyès se tut en se mordant les lèvres. Bonaparte, le sachant avide, lui abandonna le trésor privé du directoire. Il contenait 800 000 francs dont Sieyès se saisit. Et faisant le partage du lion, il ne laissa qu'une 100 000 francs à son collègue Roger Ducos. Cette petite douceur calma un peu son ambition, car il s'attendait que Bonaparte s'occuperait de la guerre et lui abandonnerait les affaires civiles. Mais voyant, dès la première séance, Bonaparte disserter sur les finances, sur l'administration, sur les lois, sur l'armée, sur la politique, et disserter en homme capable, il dit, rentrant chez lui en présence de Talleyrand, de Boulet, de Cabanis, de Roederer et de Chazal, « Messieurs, vous avez un maître ». Il était facile de voir qu'un prêtre défiant, avide, gorgé d'or, n'oserait pas lutter longtemps avec un général actif, jeune, d'une renommée immense et déjà maître du pouvoir par le fait. Sieyès n'avait d'ailleurs aucune des qualités qui auraient pu lui assurer une haute influence sur une nation fière et belliqueuse. Son seul titre de prêtre eût éloigné de lui l'armée. Ici, la ruse ne pouvait plus balancer la force. En voulant en faire l'essai à mon égard, Sieyès échoua. On mit en délibération, dès la seconde séance que tinrent les consuls, le changement de ministère. On nomma d'abord le secrétaire général de la commission exécutive, et le choix tomba sur Marais. Berthier fut le premier appelé comme ministre de la guerre. Il remplaça Dubois de Crancé, à qui Bonaparte ne pardonna jamais son opposition contre lui. Robert Lindet céda les finances à Gaudin, ancien premier commis dévoué à Bonaparte. Cambacérès fut laissé à la justice. Au ministère de la Marine, on remplaça Bourdon par Forfait et à l'intérieur, Quinette par le géomètre Laplace. On réserva in petto les affaires étrangères à Talleyrand et par intérim, le Westphalien Reinhardt lui servit de manteau. Quand on en vint à la police, Sieyès, alléguant des motifs insidieux, proposa de me remplacer par Alquier, c'était son homme. Bonaparte objecta que je m'étais bien conduit aux 18 Brumaire et que j'avais donné assez de gages. En effet, non seulement j'avais favorisé le développement de ces dispositions préliminaires, mais encore au moment de la crise, j'étais parvenu à paralyser l'action de plusieurs députés et de quelques généraux qui auraient pu nuire au succès de la journée. À peine m'avait-il été connu que j'avais fait placarder, la nuit même, dans tout Paris, une affiche d'entière adhésion et d'obéissance pour le sauveur de la chose publique. Je fus maintenu au ministère le plus important, sans doute, malgré Sieyès et en dépit des intrigues qu'on avait fait jouer contre moi. Bonaparte jugea mieux l'état des choses. Il sentit qu'il lui fallait encore surmonter beaucoup d'obstacles, qu'il ne suffisait pas de vaincre, mais qu'il fallait dompter. Que ce n'était pas trop d'avoir sous la main un ministre aguerri contre les anarchistes, il sentit également que son intérêt lui commandait de s'appuyer sur l'homme qu'il croyait le plus capable de le tenir en garde contre un fourbe devenu son collègue. Le rapport confidentiel que je lui avais remis dans la soirée même de son installation au Luxembourg l'avait convaincu que la police voyait bien et voyait juste. Cependant, Sieyès, qui voulait des proscriptions, ne cessait de se déchaîner contre ce qu'il appelait les opposants et les anarchistes. Il disait à Bonaparte que l'opinion, empoisonnée par les Jacobins, devenait détestable, que les bulletins de police en faisaient foi et qu'il fallait sévir. « Voyez, disait-il, sous quelle couleur on s'efforce de représenter la salutaire journée de Saint-Cloud, À les en croire, elle n'a pour ressort et pour levier que la supercherie, le mensonge et l'audace. La commission consulaire n'est qu'un triumvirat investi d'une effrayante dictature et qui corrompt pour asservir. L'acte du 19 Brumaire est l'œuvre de quelques transfuges abandonnés de leurs collègues et qui, dépourvus de majorité, n'en consacrent pas moins l'usurpation. Il faut les entendre s'expliquer sur vous, sur moi. Il ne faut pas qu'on nous traîne ainsi dans la boue, car si nous étions avilis, nous serions perdus. Dans le faubourg Saint-Germain, les uns disent que c'est le parti militaire qui vient d'arracher aux avocats les rênes du gouvernement. D'autres assurent que le général Bonaparte va jouer le rôle des monks. Ainsi, les uns nous placent entre les Bourbons, les autres entre les fureurs des adeptes de Robespierre. Il faut sévir pour que l'opinion publique ne soit pas laissée à la merci des royalistes et des anarchistes. Les derniers sont évidemment les plus dangereux, les plus acharnés contre le gouvernement. C'est eux qu'il faut frapper d'abord. C'est surtout dans le début qu'un nouveau pouvoir doit montrer sa force. À la suite de ce discours artificieux, Sieyès insinua qu'il fallait exiger du chef de la police une grande mesure de salut public et de sûreté générale. Il entraîna Bonaparte. On avait déclaré, le 19 Brumaire, qu'il n'y aurait plus d'actes oppressifs, plus de listes de proscriptions. Et le 26, on exigea de moi des nomenclatures pour former une liste de proscrits. Le même jour, les consuls prirent un arrêté qui condamnait 59 des principaux opposants à la déportation sans jugement préalable, 37 à la Guyane française et 22 à l'île d'Oléron. Sur ces listes se trouvaient accolés à des noms décriés et odieux, des noms de citoyens estimés et recommandables. Ce que j'avais annoncé au consul arriva, l'opinion publique désapprouva hautement et de la manière la plus forte cette proscription impolitique et inutile. Il fallut céder. On commença par des exceptions. Je sollicitais et j'obtins la liberté de plusieurs députés proscrits. Je fis sentir combien la France et l'armée seraient choquées de voir persécuter, à cause de ses opinions, Jourdan, par exemple, qui avait gagné la bataille de Fleurus et dont la probité était intacte. Le proscripteur Sieyès, voyant Bonaparte ébranlé, n'osa plus poursuivre l'exécution d'une mesure odieuse qu'il avait eu soin de m'imputer. Elle fut rapportée, et l'on se borna, sur ma proposition, à placer les opposants sous la surveillance de la haute police. Les trois consuls sentirent alors combien il leur était nécessaire de ménager et de captiver l'opinion. Plusieurs de leurs actes furent de nature à leur mériter la confiance publique. Ils s'empressèrent de révoquer la loi sur les otages et l'emprunt forcé si criant. Peu de jours suffirent pour ne plus laisser aucun doute que la journée du 18 Brumaire obtenait l'assentiment de la nation. C'est maintenant une vérité historique. Ce fut alors un fait qui décida le procès entre le gouvernement de plusieurs et le gouvernement d'un seul. Les républicains rigides, les amants ombrageux de la liberté, virent seuls avec chagrin l'avènement de Bonaparte à la magistrature suprême. Ils en tirèrent tout d'abord les conséquences et les présages les plus sinistres. Ils ont fini par avoir raison. Nous verrons pourquoi et nous en assignerons les causes. Je m'étais déclaré contre les proscriptions et contre toute mesure générale. J'avais dit au consul toute la vérité. Sûr désormais de mon crédit et me voyant affermi dans le ministère, je m'attachais à donner à la police générale un caractère de dignité, de justice et de modération, qu'il n'a pas dépendu de moi de rendre plus durable. Sous le directoire, les filles publiques étaient employées au vil métier de l'espionnage. Je défendis de se servir de ces honteux instruments, ne voulant donner à l'œil scrutateur de la police que la direction de l'observation et non celle de la délation. Je fis respecter aussi le malheur en obtenant l'adoucissement du sort des émigrés naufragés sur nos côtes du Nord, parmi lesquels figuraient des noms appartenant à la fleur de l'ancienne noblesse. Je ne me contentais pas de ce premier essai d'un retour à l'humanité sociale. Je fis au consul un rapport où je sollicitais la libération de tous les émigrés que la tempête avait jetés sur le sol de la patrie. J'arrachais ce grand acte de clémence qui, dès lors, me valut la confiance des royalistes disposés à se soumettre au gouvernement. Mes deux instructions aux évêques et aux préfets, publiées à cette époque, firent aussi quelques sensations dans le public. On les remarqua d'autant plus que j'y parlais un langage tombé en désuétude, celui de la raison et de la tolérance, que j'ai toujours cru très compatible avec la politique d'un gouvernement assez fort pour être juste. Toutefois, ces deux instructions furent diversement interprétées. Selon les uns, elles portaient le cachet de la prévoyance et de cet art profond de remuer le cœur humain qui est le propre de l'homme d'État. Selon d'autres, elles tendaient à substituer la morale à la religion et la police à la justice. Mais ceux qui soutenaient cette dernière opinion ne réfléchissaient pas à l'époque où nous nous trouvions. Mes deux circulaires existent, elles sont imprimées, qu'on les relise, et on verra qu'il fallait quelque courage et des idées positives pour faire passer alors, soit les sentiments, soit les doctrines qui y sont exprimées. Ainsi, de salutaires modifications et une tranquillité moins incertaine furent les premiers gages qu'offrit le nouveau gouvernement à l'attente des Français. Ils applaudirent à la soudaine élévation de l'illustre général qui, dans l'administration de l'État, montrait autant de vigueur que de prudence. Abstraction faite des démagogues, chaque parti se persuada que cette nouvelle révolution tournerait à son avantage. Tel fut surtout le rêve des royalistes. Ils virent dans Bonaparte le monque de la République expirante, et ce rêve favorisa singulièrement les vues du jeune consul. Fatigué, dégoûté de révolution, le parti modéré, lui-même, confondant ses vœux avec ceux des contre-révolutionnaires, souhaita ouvertement la modification du régime républicain et sa fusion avec une monarchie mixte. Mais le temps n'était pas encore venu de transformer la démocratie en monarchie républicaine. On ne pouvait y parvenir que par la fusion de tous les partis, et on en était loin encore. La nouvelle administration favorisait au contraire une sorte de réaction morale contre la révolution et la dureté de ses lois. Les écrits en vogue avaient une tendance au royalisme, on y marchait à grands pas selon la clameur des républicains. Ces clameurs étaient accréditées par des royalistes imprudents, par des ouvrages qui rappelaient le souvenir et les malheurs des Bourbons. Irma, par exemple, qui faisait alors fureur dans Paris parce qu'on croyait y trouver le récit des touchantes infortunes de Madame Royale. Dans tous les autres temps, la police aurait fait saisir une semblable production, mais il me fallut sacrifier l'opinion publique à la raison d'État, et la raison d'État voulait qu'on amorçât le royalisme. Toutefois, les maximes et les intérêts de la Révolution étaient encore trop vivaces pour qu'on pût les heurter sans compensation. Je crus de mon devoir de refroidir les espérances des contre-révolutionnaires et de relever le courage des républicains. Je fis observer au consul qu'il y avait encore bien des ménagements à garder. Qu'ayant manœuvré avec des hommes sincèrement attachés aux formes républicaines, aux libertés publiques, et l'armée elle-même en étant imbue, on ne pouvait s'isoler sans danger ni de son propre parti, ni de l'armée, qu'il lui fallait d'ailleurs sortir du provisoire et se créer un établissement fixe. À cette époque, l'attention du gouvernement vint s'absorber dans les travaux préparatoires des deux commissions législatives intermédiaires. Celle des 500 était conduite par Lucien, Boulet, Jacqueminot et Daunou. Celle des anciens l'était par Lemercier, Lebrun et Régnier. L'homme le plus fort était sans contredit Lebrun. Ses avis, Bonaparte les réclamait et les recevait avec déférence. Il s'agissait de discuter en grande conférence le nouveau projet d'organisation sociale que Sieyès désirait présenter pour remplacer la constitution de l'an III dont il ambitionnait de faire les funérailles. Sieyès, dont l'arrière-pensée était connue de Bonaparte, affectait un grand mystère. Il disait qu'il n'avait rien de prêt, qu'il n'avait pas le temps de mettre ses papiers en ordre. Il jouait le silence, en cela semblable à ces auteurs à la mode qui, dévorés du désir de lire leurs écrits, se font d'abord prier par coquetterie et par ton avant de céder aux instances d'un public curieux et souvent moqueur. Je fus chargé de pénétrer ces mystères. J'employai Réal, qui, usant de beaucoup d'adresse, avec une apparence de bonhomie, découvrit les bases du projet de Sieyès en faisant jaser Chénier, l'un de ses confidents, au sortir d'un dîner où les vins et d'autres enivrants n'avaient pas été épargnés. Sur ces données, il y eut un conseil secret où je fus appelé. Bonaparte, Cambacérès, Lebrun, Lucien, Joseph, Berthier, Réal, Regnault et Roederer étaient présents. Là, nous discutâmes un contre-projet et la conduite que devait tenir Bonaparte dans les conférences générales qu'on attendait avec impatience. Enfin, vers la mi-décembre, les trois consuls et les deux commissions législatives se réunirent dans l'appartement de Bonaparte. Leur conférence s'ouvrait à 9 heures du soir et se prolongeait jusque bien avant dans la nuit. Daunou était chargé de la rédaction. Sieyès, à la première séance, ne dit mot. Pressé et à force d'instance, il donna ensuite pièce à pièce ses théories renfermées dans des cahiers différents. Avec un ton d'oracle, il déroula successivement les bases de sa constitution chérie. Elle créait un tribunat composé de 100 membres appelés à discuter des lois. Un corps législatif plus nombreux appelé à les admettre ou à les rejeter par le vote, sans discussion orale. Et enfin un Sénat composé de membres élus à vie avec la mission plus importante de veiller à la conservation des lois et des constitutions de l'État. Toutes ces bases contre lesquelles Bonaparte ne fit aucune objection sérieuse furent successivement adoptées. Quant au gouvernement, Sieyès lui donnait l'initiative des lois et créait à cet effet un conseil d'État chargé de mûrir, de rédiger les projets et les règlements de l'administration publique. On savait que le gouvernement de Sieyès devait se terminer en pointe, en une espèce de sommité monarchique planté sur les bases républicaines, idée dont il s'était entiché depuis longtemps. On attendait avec une curiosité attentive et même impatiente qu'il découvrit enfin le chapiteau de son édifice constitutionnel. Que proposa Sieyès ? Un grand électeur à vie, choisi par le Sénat conservateur, siégeant à Versailles, représentant la majorité de la nation, avec 6 millions de revenus, 3 000 hommes pour sa garde, et n'ayant d'autre fonction que de nommer 2 consuls, celui de la paix et celui de la guerre, tous 2 indépendants l'un de l'autre, dans l'exercice de leurs fonctions. Et ce grand électeur, en cas de mauvais choix, pouvait être absorbé par le Sénat, qui était investi du droit d'appeler dans son sein, sans en donner les motifs, tout dépositaire de l'autorité publique, les 2 consuls et le grand électeur lui-même. Devenu membre du Sénat, ce dernier n'aurait plus eu aucune part directe à l'action du gouvernement. Ici, Bonaparte ne put y tenir. Se levant et poussant un éclat de rire, il prit le cahier des mains de Sieyès et sabra d'un trait de plume ce qu'il appela tout haut des niaiseries métaphysiques. Sieyès, qui d'ordinaire boudait au lieu de résister aux objections, défendit pourtant son grand électeur et dit qu'après tout, un roi ne devait pas être autre chose. Bonaparte répliqua avec vivacité qu'il prenait l'ombre pour le corps, l'abus pour le principe, qu'il ne pouvait y avoir dans un gouvernement aucun pouvoir d'action sans une indépendance puisée et définie dans la prérogative. Il fit encore plusieurs objections concertées et préparées auxquelles Sieyès répondit mal. Mais s'échauffant de plus en plus, il finit par cette apostrophe « Comment avez-vous pu croire, citoyen Sieyès, qu'un homme d'honneur, qu'un homme de talent et de quelque capacité dans les affaires voulut jamais consentir à n'être qu'un cochon à l'engrais de quelques millions dans le château royal de Versailles ?» Égayés par cette sortie, les membres de la conférence s'étaient pris à rire. Sieyès, qui avait déjà montré de l'indécision, resta confondu et son grand électeur fut coulé à fond. Il est certain que Sieyès cachait des vues profondes dans cette forme ridicule de gouvernement, et que s'il l'eût fait adopter, il en serait resté l'arbitre. C'est lui, vraisemblablement, que le Sénat eût nommé grand électeur, c'est lui qui eût nommé Bonaparte consul de la guerre, sauf à l'absorber en temps opportun. Par là, tout serait resté dans ses mains, et il lui eût été facile, en se faisant absorber lui-même, de faire appeler tel autre personnage à la tête du gouvernement, transformé par une transition adroitement préparée, un pouvoir exécutif électif en royauté héréditaire pour telle dynastie qu'il lui eût convenu d'établir dans l'intérêt d'une révolution dont il était le hiérophante. Mais sa marche tortueuse et suspecte amena la vive résistance du consul à laquelle il aurait dû s'attendre, et de là le renversement de ses projets. Toutefois, il n'avait pas négligé de se ménager, comme on le verra bientôt, une retraite sûre à l'abri des coups de la fortune. Il ne suffisait pas d'écarter le projet de Sieyès, il fallait encore que les adhérents, les conseillers intimes du général consul, fissent passer un mode quelconque de gouvernement pour rester les maîtres du pouvoir. Tout était prêt. Néanmoins, malgré la retraite personnelle de Sieyès, on vit revenir à la charge le parti qui, attaché à ses conceptions en désespoir de cause, proposa l'adoption de formes purement républicaines. On mit alors en avant et on leur opposa la création d'un président, à l'instar des États-Unis, pour 10 ans, libre dans le choix de ses ministres, de son conseil d'État et de tous les agents de l'administration. D'autres, aussi apostés, furent d'avis de déguiser la magistrature unique de président, et à cet effet, ils offrirent de concilier les opinions diverses en composant un gouvernement de 3 consuls, dont 2 ne seraient que des conseillers nécessaires. Mais quand on voulut faire décider qu'il y aurait un premier consul, investi du pouvoir suprême, ayant le droit de nomination et de révocation à tous les emplois, et que les 2 autres consuls auraient voix consultative seulement, des objections s'élevèrent. Chazal, Daunou, Courtois, Chénier et d'autres encore invoquèrent les limites constitutionnelles. Ils représentèrent que si le général Bonaparte s'emparait de la dignité de magistrat suprême sans élection préalable, il dénoterait l'ambition d'un usurpateur et justifierait l'opinion de ceux qui prétendaient qu'il n'avait fait la journée du 18 Brumaire qu'à son profit. Faisant pour l'écarter un dernier effort, ils lui offrirent la dignité de généralissime avec le pouvoir de faire la guerre ou la paix et de traiter avec les puissances étrangères. « Je veux rester à Paris, » reprit Bonaparte avec vivacité et se rongeant les ongles. « Je veux rester à Paris, je suis consul. » Alors Chénier, rompant le silence, parla de liberté, de république, de la nécessité de mettre un frein au pouvoir, insistant avec force et courage pour l'adoption de la mesure de l'absorption au Sénat. « Cela ne sera pas !» s'écria Bonaparte en colère et frappant du pied. « Il y aura plutôt du sang jusqu'aux genoux. » À ces mots, qui changeaient en drame une délibération jusqu'alors mesurée, chacun resta interdit, et la majorité enlevée remit le pouvoir, non à 3 consuls, le 2e et le 3e n'ayant que voix consultative, mais à 1 seul, nommé pour 10 ans, rééligible, promulguant les lois, nommant et révoquant à volonté tous les agents de la puissance exécutive, faisant la paix et la guerre, et enfin se nommant lui-même. En effet, Bonaparte, évitant de faire du Sénat une institution préalable, ne voulut pas même être premier consul par le fait des sénateurs. Soit dépit, soit orgueil, Sieyès refusa d'être l'un des consuls accessoires. On s'y attendait et le choix qui déjà était fait in petto par Bonaparte tomba sur Cambacérès et Lebrun, de nuances politiques différentes. L'un conventionnel, ayant voté la mort, avait embrassé la révolution dans ses principes ainsi que dans ses conséquences, mais en froid égoïste. L'autre, nourri dans les maximes du despotisme ministériel sous le chancelier Maupeou, dont il fut le secrétaire intime, tenant peu aux théories, ne s'attachait guère à l'action du pouvoir. L'un impuissant défenseur des principes de la révolution et de ses intérêts, penché pour le retour des distinctions, des honneurs et des abus, l'autre était un avocat plus chaud, plus intègre, de l'ordre social, des mœurs et de la foi publique. Tous deux étaient éclairés et probes, quoique avides. Quant à Sieyès, nommé sénateur, il concourut avec Cambacérès et Lebrun à organiser le Sénat dont il fut le premier président. En récompense de sa docilité à laisser tomber le timon des affaires dans les mains du général consul, on lui décerna à la terre de Crône, dont magnifique d'1 million, outre 25 000 livres de rente comme sénateur et, indépendamment de son pot de vin directorial de 600 000 francs, qu'il appelait « sa poire pour la soif ». Déconsidéré dès lors et anéanti dans de mystérieuses sensualités, il fut annulé politiquement. Un décret du 20 novembre portait que les 2 précédents conseils législatifs se rassembleraient de plein droit en février 1800. Pour mieux éluder ce décret, dont l'exécution eut compromis le consulat, on soumit la nouvelle constitution à l'acceptation du peuple français. il ne s'agissait plus de le réunir en assemblée primaire en consacrant de nouveau le principe de la démocratie, mais d'ouvrir dans toutes les administrations et chez les officiers publics des registres sur lesquels les citoyens devaient inscrire leurs votes. Ces votes s'élevèrent à 3 millions et plus, et je puis affirmer qu'il n'y eut dans le recensement aucune fraude, tant la révolution de Brumaire était reçue favorablement par la grande majorité des Français.